Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Où je vais ? Au Vietnam, à Hanoï, comme il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, comme toujours, chaque fois différemment, chaque fois seul, pour tenter de réconcilier le passé et le présent, les deux continents et mes membres souffrants. Pour tenter de me réconcilier. Au creux de ma poche se trouve ce médaillon en étain, vestige d'un temps dont je ne me souviens plus, témoin d'une naissance, tampon sur mon cœur, plus identitaire encore qu'un passeport, moins biométrique peut-être. Ce médaillon, avec sa forme irrégulière, mal dessinée, avec son trou percé dedans afin qu'on y glisse une cordelette, m'a été posé sur le poignet à la naissance et on y a gravé 396, mon numéro de naissance. Je suis le bébé numéro 396 de cet hôpital vietnamien miteux de ce 30 décembre 1995. Et je reviens comme chaque fois, le bébé de qui ? Le bébé de personne, le bébé de tous les voyages que j'ai faits, seul, pour en obtenir la réponse. Aujourd'hui, je reviens en paix, clore le chapitre de cette histoire. Miss Papin, please hurry, you're the last passenger. L'avion va décoller, j'avais la tête ailleurs. Le steward trotte devant moi et me fait signe de monter à bord. J'accours. Voilà, nous sommes tous assis, bien ceinturés. Déjà, j'entends du vietnamien. Les hôtesses de l'air, les passagers, les voix enregistrées prononcent cette langue que j'avais oubliée. Une mélodie du passé avec ses accents toniques. Un sentiment me divise. Ai-je envie de l'écouter ou bien de la faire taire ? L'avion décolle. Sur les écrans, une terre ronde tourne et, autour d'elle, en pointillé, la trajectoire d'un avion blanc se dessine. Au fur et à mesure de notre avancée, les pointillés s'allongent pour contourner la planète. Ce dessin, je le vois depuis que je suis enfant. J'avais compris déjà le coup de la boule qui tourne. Mais les gens, on les laissait pour combien de temps ? Ils allaient faire quoi en attendant ? Et nous, on partait où ? Et les cœurs et l'amour, ils se plaçaient où sur les pointillés ? Du bout du nez, l'avion blanc touche Hanoï. Les pointillés s'écrasent sur la ville que l'engin recouvre. Alors j'y suis. L'avion atterrit. L'air est humide. Les taxis attendent en file devant l'aéroport. L'un d'eux m'ouvre ses portières et m'embarque sur l'autoroute vers la ville. Voilà les palmiers qui défilent devant moi, les motos qui klaxonnent, les couleurs qui brouillonnent. Hanoï ne bouge pas. Je grandis, je me torture et elle est là, ma ville, identique. Je l'aimais tant.
Littérature sans frontières. Un pays. Un auteur.
Bonjour Lynn Papin.
Bonjour.
Et merci de nous avoir lu cet extrait de votre nouveau livre intitulé « Les os des filles », les os, je précise, qui est apparu aux éditions Stock. Un récit qui s'inscrit entre Hanoï, où vous êtes née, il y a 23 ans, et Paris, où vous vivez actuellement, et plus largement entre le Vietnam, terre de vos ancêtres, quittée brutalement en 2005, et la France, où, dans la souffrance, vous êtes passé de l'enfance à l'adolescence. Un texte qui raconte aussi vos retours au pays natal. Que représente le Vietnam pour vous aujourd'hui, Lynn Papin ?
Aujourd'hui, le Vietnam représente pour moi le pays maternel, donc le pays de ma mère, de ma grand-mère et l'endroit où je suis née. Après, c'est vrai que c'est aussi un pays que j'ai quitté et qui n'est donc plus mon pays. Et quand je le retrouve aujourd'hui, je ne me sens pas chez moi. Mais disons que c'est un pays du souvenir affectif.
C'est l'histoire d'une fracture au sens figuré d'abord, à savoir comment à 10 ans, quand vous avez 10 ans plus exactement, vos parents décident de s'installer en France, dont votre père est originaire. Oui. Et vous vivez cet événement comme un déracinement. Et une fracture au sens propre, puisque ce choc de l'exil se ressent sur votre corps, dans votre ossature, vos os, donc, pour reprendre le titre du livre, puisque votre croissance va s'interrompre, et ce n'est sans doute pas par hasard, parce que cette somatisation fait aussi écho à ce que vous dites au début du livre sur les enterrements au Vietnam. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler la cérémonie des tombes ?
Alors, en fait, au Vietnam, quand les gens meurent, on les enterre une première fois pendant 3 ans dans une tombe, qui est comme un endroit passager. Et ensuite, une fois qu'il ne reste plus que les os, on retire les os et on les met dans un petit coffret. Et donc, le premier tombeau est un endroit qui accueille différents corps. Et finalement, ce qui reste dans la seule boîte à la fin, ce sont plus que les os seuls. Et donc, c'est le thème de mon livre, qui s'appelle Les os des filles. C'est vraiment ce thème de l'ossature, de ce avec quoi on est et ce qui reste après notre mort, en fait.
Vous voulez dire ce qu'on se transmet aussi, oui, à la fois génétiquement, mais aussi du point de vue des sentiments et de la culture.
C'est ça, c'est vraiment il y a un jeu de mots bien sûr sur les perdre les os des femmes, donc ce qui conduit à la naissance. Et dans la transmission, il y a à la fois ce que nos parents nous transmettent qui est évident, et à la fois ce qui tient de la mémoire invisible, donc ce qu'ils ont peut-être vécu, que l'on n'a pas vécu et dont on n'a même pas connaissance, mais qu'on peut peut-être ressentir tout de même.
Ce troisième livre, qui se présente aussi comme un récit de guerre, à tous égards, celle que vous, Lynn Papin, vous allez mener toute seule en France, nous y reviendrons, et celle d'abord d'ordre mondial. Et le récit commence donc en 1945, à 30 kilomètres d'Hanoï, où là vivait votre arrière-grand-mère.
C'est ça, dans un petit village, en fait, au-dessus des rizières. Et c'était des familles qui... Les femmes travaillaient, donc, les pieds dans l'eau, dans les rizières. Et donc, ça commence d'abord dans ce village à côté de Hanoï.
Alors, je voudrais rester un instant sur cette femme, cette arrière-grand-mère, parce que déjà, elle fait un acte de rébellion, d'une certaine façon, puisque oui, c'est la deuxième épouse du chef du village. Comme il est violent, elle prend son bébé sous le bras... Et elle va s'installer à côté et très courageusement, elle va élever seule sa petite fille, Ba, qui sera donc votre grand-mère. Qui vous a raconté cette histoire, Lynn Papin ?
C'est ma mère et mon grand-père. En fait, ma grand-mère est décédée, donc je n'ai pas pu m'entretenir avec elle lors de l'écriture de ce livre. Mais j'ai posé beaucoup de questions à ma mère et à mon grand-père, qui m'ont raconté donc ces histoires. Et je me suis aussi rendue au Vietnam, dans ce village, pour le visiter et pour aller sur la tombe de ma grand-mère, qui est enterrée là-bas. Et donc, vraiment revenir sur cette histoire familiale, dont je n'avais pas du tout connaissance avant l'écriture du livre, finalement.
Donc c'est une enquête, une quête récente, finalement ?
Oui, c'est une quête récente qui part de l'histoire de la petite fille, de moi-même donc, puisqu'elle porte le nom de Lynn dans le livre, d'une petite fille qui s'interroge sur sa douleur et qui se demande pourquoi, à l'âge de 15 ans, elle n'avait décidé d'arrêter de se nourrir et s'était détachée de la vie. Et à partir de là, je remonte le lien maternel et je me demande qui est ma mère, quelle était son enfance, qui est ma grand-mère. Et tout ça m'amène jusqu'à ce village à côté de Hanoï.
Et effectivement, vous racontez donc l'arrière-grand-mère et puis la grand-mère, Ba, qui à 16 ans va s'éprendre de Trang, qui enseigne la littérature et l'histoire. Elle a d'ailleurs une passion pour Napoléon. Et puis à son tour, très jeune, elle aura 3 filles. Et d'ailleurs, c'est une photo des 4 qui est sur le bandeau de votre roman Lynn Papin, où on voit donc Ba entourée de ses 3 enfants. Elles sont toutes les 4 assises. C'est une photo en noir et blanc, évidemment. Donc c'est aussi l'histoire d'une lignée de femmes vietnamiennes que vous vouliez raconter.
Oui, parce que la première femme forte de cette histoire, c'est donc mon arrière-grand-mère qui avait décidé de quitter son mari à une époque où le Vietnam était polygame, donc les hommes avaient plusieurs femmes et le divorce n'existait pas, évidemment. Et elle a décidé de se faire sa petite cabane à elle, seule. Et puis ensuite, la seconde femme, c'est ma grand-mère, Ba, qui elle aussi élève ses 3 filles et réussit à être mutée à Hanoï et donc à arriver dans la capitale. Et là, c'est le premier déménagement. La troisième femme, donc la troisième génération dont il est question, c'est ma mère, évidemment, qui rencontre mon père, un jeune français, donc, à l'issue de toutes ces époques de guerre. Et enfin, la petite fille, peut-être la narratrice du livre aussi. Et donc voilà, c'est une histoire de femme.
Et donc arrive une nouvelle guerre, celle du Vietnam, de 1968 à 1975, qu'elles vivent seules essentiellement, puisque le grand-père n'est pas là au début, il est à Hanoï et elles sont encore dans ce petit village. Donc elles vivent ça sous les bombes, avec la famine, la rudesse, la peur aussi que le pont soit bombardé, le courage, le dénuement. Et puis quand enfin elles réussissent à aller à Hanoï, où elles retrouvent donc Trang, le père et le mari, il y a l'embargo, donc en fait il y a toujours ces privations permanentes, cette façon de vivre dans des endroits minuscules avec beaucoup de promiscuité, des conditions
mais en même douloureuses. Je raconte ces conditions qui étaient douloureuses, mais en même temps elles trouvaient le bonheur dans des petites choses, et je pense que elles n'ont pas eu, malgré les conditions qui étaient difficiles, une enfance malheureuse, parce que étant habituée à ça et à rien d'autre, c'était leur vie finalement. Et je raconte comment, par exemple, les petites filles ont pour jouer des sachets de bonbons, et en fait elles ramassent les sachets, elles se les échangent, donc les sachets rouges valent plus que les sachets verts, et les sachets tombés des poches des soldats russes, qui sont des sachets argentés, ce sont les sachets qui valent le plus cher. Donc je raconte aussi comment les enfants jouent dans cette époque de guerre, et comment Ba tombe amoureuse de Chang. Donc c'est des époques où il y a aussi, enfin il y a la vie, il y a la guerre, mais il y a aussi la vie, les jeux, l'amour. Et quand l'embargo sera levé ensuite, là c'est mon histoire bascule, puisque c'est la vie de la seconde sœur avec le jeune français.
De fait, Lin Papin, en creux de cette histoire familiale, c'est aussi tout le portrait d'un pays martyrisé que vous faites. Mais toute cette histoire douloureuse du pays, là, pas seulement de vos aïeuls, vous l'avez découverte récemment, Lin Papin, justement, en travaillant sur ce livre, ou est-ce que ça vous a été transmis depuis par votre maman ou par vos tantes, par exemple, après l'exil?
Bah, je l'ai toujours remarqué, parce que en plus étant petite, quand j'habitais à Hanoï, souvent aux informations ou à la télé, on voyait des images, par exemple de personnes qui avaient été déformées par l'agent orange, donc il y avait beaucoup de gens qui étaient handicapés à cause de la guerre, comme il y a eu quand même des produits chimiques qui ont été déversés, donc on voyait des horreurs à la télé. Mais en même temps, c'est comme c'est un pays qui a gagné la guerre, même s'il a beaucoup souffert, il y avait un patriotisme, un nationalisme, et les gens étaient fiers. Et donc, ils n'étaient pas du tout dans la complainte ou dans la tristesse. Ils étaient dans un sentiment de victoire. Donc, je savais qu'il y avait eu la guerre, qu'il y avait eu des choses difficiles, mais on ne le ressentait pas du tout dans la rue comme un pays détruit. Pas du tout.
C'était un pays fort, au contraire.
Oui, parce qu'ils avaient gagné, en fait.
Sans frontières.
Un pays.
Un auteur.
Et nous sommes au Vietnam aujourd'hui sur RFI avec Lin Papin, auteur du livre Les eaux des filles, paru chez Stock. L'histoire, on l'a dit en première partie, d'une lignée de femmes vietnamiennes de Vu Thi Gao, je ne sais pas comment prononcer le nom de votre arrière-grand-mère, jusqu'à Lin, en passant par Ba et les sœurs H. Quatre générations, donc, qui ont traversé les guerres, qui ont connu la faim, la pauvreté, la fin de l'embargo, et puis l'éveil d'Hanoï à partir des années 90-2000, jusqu'à, pour l'auteur, vous, donc Lynn Papin, la rupture avec le pays natal en raison du départ de vos parents pour la France. Et là, c'est un monde qui s'écroule, une culture qui disparaît, un corps qui se désagrège, le vôtre, donc Lynn Papin, tel que vous le racontez dans ce récit, puisque vous tombez gravement malade, dépressive, anorexique, hospitalisée pendant des mois. Est-ce que c'est l'arrachement au Vietnam qui vous a presque tué?
Je pense que je raconte ce déracinement des yeux d'un enfant. Et je pense que c'est une douleur d'enfant et une incompréhension d'enfant aussi, puisque le même déménagement vécu par des adultes n'est pas du tout ressenti de la même manière. Et j'explique vraiment comment, pour un enfant qui n'a pas les mots pour s'exprimer, ni les questions, et qui ne comprend pas bien où il se situe sur la Terre lorsqu'il déménage comme ça, surtout à une époque où il n'y avait pas Skype, WhatsApp, et donc on n'avait aucun lien en fait. Quand on partait, c'était vraiment définitif, et on ne savait pas du tout où étaient les personnes qu'on quittait, et qu'est-ce qu'elles devenaient, et qu'est-ce qu'elles faisaient. Du coup, cette rupture était vraiment une très très brutale, et je pense qu'effectivement, ça a pu conduire la petite fille à arrêter de se nourrir, puisqu'elle avait été coupée de ce lien maternel qu'était pour elle ce pays, sa grand-mère, sa nourrice, et donc tout ce qui l'avait entouré depuis son enfance.
Oui, parce que c'est vrai que le choc des cultures est spectaculaire, dans le sens où les modes de vie sont diamétralement opposés. Au Vietnam, tout le monde vivait en famille, il y avait la grand-mère, la mère, les tantes, la nourrice très importante, vous étiez libre de vos mouvements avec vos cousins ou les voisins, vous étiez dans la rue, vous couriez, vous étiez vraiment indépendant. Et là, vous arrivez en France, alors non pas à Paris directement, mais à Tours, dans un appartement, avec d'autres règles, d'autres façons de fonctionner, et puis après à Paris, et là à nouveau, un autre paysage, d'autres comportements, et vous dites que après la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam, c'est une troisième guerre civile, cette fois et intérieure, qui ravage votre corps. Ou qui ravage le corps de la petite fille. Donc ça devait être extrêmement violent.
C'est aussi une image, bien sûr, littéraire, parce que pour faire le lien entre la première guerre, la deuxième guerre, et ce que j'appelle la troisième guerre, qui est une guerre intérieure, et effectivement, je dis qu'il y a des armées qui se font la guerre dans le corps de la petite fille, mais c'est aussi une image qui est connue, je pense. On dit parfois que c'est la guerre à l'intérieur de soi. Enfin, j'ai l'impression que... Donc, c'était pour faire le lien entre les générations de femmes et l'histoire de ce pays qui peut-être pouvait peser sur la petite fille, bien qu'elle soit née après.
Je vais vous lire, si vous voulez bien, Lynn Papin, un extrait justement de ce chapitre intitulé « Troisième guerre ». La fillette ne sourit plus, elle est sur son banc et la neige de Paris tombe, assise, les lattes se couvrent de glace. Elle attend que la terre revienne. Elle ne reviendra peut-être jamais. Voyez, il y a ici pour elle comme un air de faiseuse d'ange quand on y a réchappé. Je ne vais pas mentir, puisqu'il n'y avait plus de chaleur ni de jeu, puisque ses efforts d'enfant n'avaient rien empêché. Voilà ce qui arriva, la troisième guerre dut commencer. Cette guerre n'était pas extérieure, mais il y avait autant de bombes, d'eau et de morts que lors des deux premières. La petite fille est entrée en guerre comme ses aînés, mais elle n'est pas entrée en guerre contre les Japonais, les Français ni les Américains. Elle est entrée en guerre contre elle-même, tout simplement. Oui, c'était une guerre civile, entre une part d'elle-même et une autre. Fermez les guillemets. J'imagine que ce que vous écrivez aujourd'hui, devenu adulte, même s'il ne s'est pas passé tout à fait 10 ans depuis les événements, puisque vous avez, je le rappelle, 23 ans, vous pouvez l'écrire avec le recul, mais vous ne pouviez pas peut-être le verbaliser, le comprendre au moment des faits.
Bien sûr, je pense que aussi c'est l'écriture qui permet d'avoir du recul, et c'est l'écriture qui permet de comprendre. Et vraiment, j'avais pas compris cette histoire, ou je l'avais pas en tête avant de l'avoir écrit. Donc c'est vraiment l'écriture de ce roman qui m'a apporté les réponses et qui a dessiné ce chemin et cette explication. Donc, je pense que l'écriture est... J'ai envie de dire, l'écriture est salvatrice. Mais
Est-ce que vous aviez conscience que le Vietnam vous manquait?
En fait, quand je suis arrivée en France, comme tous les enfants qui ont 10 ans, j'avais envie bien sûr de me fondre dans la masse parce qu'on a envie de ressembler à tout le monde, on n'a vraiment pas du tout envie d'être différent. Et donc il n'a pas du tout été question du Vietnam pendant 10 ans. Et en fait, le Vietnam est revenu à moi par l'écriture quand j'ai écrit L'Éveil, mon premier roman, à l'âge de 20 ans. Et donc vraiment sans faire exprès, il s'est vraiment imposé à moi et c'est devenu le lieu de mon premier roman. Et depuis, le Vietnam revient. Mais pendant 10 ans, je n'ai plus parlé vietnamien et il n'a pas été question de ce pays-là.
Alors c'est vrai que ce qui vous sauve pendant ces mois à la fois d'hospitalisation et puis ces mois d'errance où vous êtes totalement perdu, c'est la lecture.
Oui.
Parce que la lecture vous sort de votre ordinaire. Voilà ce que vous écrivez. La seule chose que je fais avec plaisir et sans me sentir observée ni jugée, c'est lire. Dans les romans que je dévore, dans les poésies que je récite, les personnages me laissent en paix. L'auteur me parle, raconte, je regarde, je suis, j'écoute et j'oublie un peu mon corps de rescapé. Donc d'une certaine façon, c'est la lecture qui vous aide à survivre dans un premier temps. Et ensuite, est-ce que vous avez l'impression, Lynn Papin, que c'est par l'écriture que vous reprenez possession de
oui.
votre corps et que vous retrouvez ou que vous trouvez votre place dans ce monde?
Oui, 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 tout à fait. C'est la lecture dans un premier temps qui me fait m'échapper un peu de cette douleur et de cette situation. Et l'écriture permet de devenir acteur, en fait, et de reprendre la main sur cette histoire. Et j'écris dans le livre, désormais je ne suis plus une victime. L'écriture permet de se resituer et de réécrire sa propre histoire en fait, donc de redevenir le personnage principal de son histoire.
Et donc en effet, vous publiez, comme vous le disiez à l'instant, votre premier roman L'Éveil très jeune, à 20 ans. Mais il faut dire aussi que entre-temps, à 17 ans, vous êtes retournée seule
oui.
au pays pour voir votre grand-père, puisque malheureusement votre grand-mère était décédée, et votre nourrice. C'est un voyage qui a été déterminant pour vous, Lynn Papin, ce retour au Vietnam?
Non, c'était un voyage bouleversant parce que c'était le premier que je faisais pour retourner là-bas et que j'avais en plus fait seule. Donc c'était un voyage important. Mais il ne m'avait pas donné de réponse en fait, il m'avait simplement bouleversée parce que j'étais revenue retrouver ma nourrice qui avait eu des enfants et donc j'écris dans le livre que la vie continue finalement sans nous et que là où on attendait des gens ou des choses, ces gens-là ont finalement fait leur vie, ils ont évolué sans nous. Et donc c'était un voyage qui était bouleversant, mais c'est le deuxième voyage qui m'a permis de vraiment comprendre et de vraiment redevenir actrice de cette histoire.
Parce que aussi peut-être le pays que vous découvrez a énormément changé, évidemment par rapport à vos souvenirs quand vous aviez 10 ans, mais tout simplement parce que le pays a changé pendant
ces 10 ans. Oui, parce que c'est un
pays qui,
c'est un pays qui a beaucoup évolué et on le voit dans le roman qui commence en 1945 et se termine en 2019. C'est vrai que le pays a énormément changé puisque quand j'étais petite, il n'y avait vraiment à peine de voitures, pas de grands magasins, pas. On allait en fait en pousse-pousse à l'école et en revenant, même en 2015, il y avait déjà des Zara, des H&M, donc déjà ça s'était mondialisé.
Et alors ça vous a rendu triste ou au contraire ça vous a donné une familiarité?
Ça a mis en relief le fait que le passé était passé et que comme les personnes changent, les villes changent aussi et qu'on ne peut jamais revenir dans le passé.
Et vous aimez Hanoï aujourd'hui?
Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Hanoï aujourd'hui, mais je l'aime comme une ville dans laquelle je ne revivrai pas pour autant.
En tout cas, c'est vrai que ces voyages, à la fois, vous ont permis de revenir sur l'histoire familiale, dans laquelle vous aussi, vous pouvez vous inclure depuis votre naissance en décembre 1995. Mais comme vous dites souvent « tu » en parlant de la jeune narratrice, comme s'il y avait deux personnes en vous, celle du passé au Vietnam et celle d'aujourd'hui en France, est-ce que néanmoins ces voyages ont réconcilié les deux continents que vous étiez devenus?
Oui, ces voyages ont vraiment réconcilié ces deux continents sur lesquels je pose un pied sur chaque, parce que quand je suis en France, on remarque que je suis vietnamienne, et quand je suis au Vietnam, on remarque que je suis française, en fait. Donc il y avait toujours cette part qui, aujourd'hui, est une force, je pense, d'avoir une double culture, mais qui, quand j'étais plus jeune, était une faiblesse. Et dans mon livre, je parle aux petites filles que j'étais, comme si c'était, en fait, comme si on était des poupées russes, et qu'il y avait la petite moi à 5 ans, la petite moi à 10 ans, la petite moi à 15 ans, et à chaque fois, c'est une fille différente, en fait. Comme dans la vie, à chaque fois, c'est nous, mais c'était pas nous, c'est une petite figurine. Et l'idée, c'était de toutes les rassembler dans la grande poupée aujourd'hui.
Est-ce que, en revanche, vous regrettez de ne plus parler vietnamien? Vous le parlez, mais plus comme une langue quotidienne ou comme une langue courante?
Moi, je le regrette pas, parce que de toute manière, j'ai pas l'occasion de le parler à Paris, donc ça...
Même pas avec vos parents, parce que vous deviez parler vietnamien, j'imagine, quand vous étiez à Hanoï.
Oui, à Hanoï, on parlait vietnamien, mais depuis qu'on est en France, c'est vrai que on parle français.
Donc du jour au lendemain, vous avez changé de langue en changeant de pays?
Oui, parce que finalement, comme mon père est français, on parlait français, et il ne restait plus que ma mère comme interlocuteur vietnamien, et donc forcément... On a fini par aussi lui parler français, elle parlait français aussi. Je pense que ce que je regrette peut-être, c'est que si un jour j'ai des enfants, eux, ils ne seront pas du tout vietnamiens. Et ça, c'est peut-être quelque chose où je me dis que là, ça va se perdre, quoi, c'est ça. Mais parce que ça se perd petit à petit. Mais moi, après, c'est la langue de mon enfance, c'est le pays de mon enfance. Donc, c'est quelque chose qui reste de l'enfance, mais qui fait plus partie du présent.
Vous avez l'air très sûre, Lynn Papin, en disant que vos enfants ne seront pas vietnamiens. Vous n'imaginez donc pas, éventuellement, d'ici à quelques années, peut-être vous installer au Vietnam?
Non, je pense que je n'habiterai pas au Vietnam.
La page est tournée pour vous.
Oui. J'en sais rien, mais
a priori, vous avez encore de la famille là-bas, n'est-ce pas?
J'ai mon grand-père seulement. Donc j'ai plus beaucoup de famille, puisque mes tantes sont parties. C'est un pays aussi aujourd'hui où les gens aspirent quand même à partir. Donc c'est vrai que moi, toute ma famille est partie du Vietnam. Donc voilà, c'est vraiment le passé, quoi.
Même encore aujourd'hui, les Vietnamiens aspirent à partir, vous pensez?
Je pense que oui. Je pense que quand les gens ont un peu d'argent, ils ont envie de partir ailleurs, parce que c'est un pays... Pour l'instant, c'est difficile de s'y épanouir, je pense. Mais bon, ça, c'est une autre question.
Effectivement, c'est une autre question. Toujours est-il que désormais, après avoir eu le vietnamien comme langue maternelle, mais avoir grandi et avoir été éduqué en français, j'imagine que pour vous, il n'y a plus de questions. La langue d'écriture sera toujours le français.
Oui. Et surtout que je ne suis pas capable d'écrire en vietnamien ni de le lire. Donc, mais la langue de pensée même est le français, puisque il m'est arrivé, je crois, quand j'étais toute petite, de penser en vietnamien, ce qui me paraît impossible aujourd'hui. Et moi, maintenant, ma langue dans laquelle je pense, c'est le français. Donc, c'est la langue dans laquelle j'écris, du coup.
Merci beaucoup, Lynn Papin.
Merci.
Je rappelle le titre de ce nouveau livre, Les Eaux des filles, qui a été publié par les éditions Stock.
Merci.
Xa nhau chỉ cần quay lưng cho mà em đã nhớ anh ra giết thật thà mong sẽ gần nhau thêm đôi chút hãy cho em biết điều này sắp kết thúc anh có buồn không em không thể biết
sans frontières.